modèle. Et ça sera basé tout simplement sur, je suppose que certains connaissent, sur quelques passages du prophète Ésaïe. Vous savez que dans Ésaïe, on parle souvent du... On parle plein de choses, mais du serviteur de Dieu. Et dans Ésaïe, il y a ce qu'on appelle communément les quatre chants du serviteur. C'est les quatre chants du serviteur, c'est quatre passages qui parlent du serviteur de Dieu, Jésus, le Messie à venir. Voilà. Et on appelle ça les chants du serviteur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un peu poétique. Ce sont des textes poétiques. Et là, dans ces descriptions de prophète Ésaïe, je voudrais voir comment Jésus est décrit alors que ça a été écrit 700 ans à peu près avant la venue de Jésus. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui ? Voilà, tout simplement. Alors, je vous le dis à l'avance, hein, ces passages, ces quatre chants du serviteur, les limites ne sont pas tout à fait fixées parce que c'est un peu variable, on ne sait pas trop exactement, mais à peu près, on pense que c'est chapitre 42, versets 1 à 7, chapitre 49, versets 1 à 13, chapitre 50, versets 4 à 10, et à la fin, Ésaïe 53. Mais Ésaïe 53 qui commence en fait à 52, hein, qui commence à 52, verset 13 de mémoire. Voilà. Je voudrais dire, pour commencer, que Ésaïe est le premier à appeler le peuple d'Israël, dans son ensemble, le serviteur de l'Éternel. Israël était décrit comme le serviteur de l'Éternel. Et quand vous prenez Ésaïe chapitre 41, verset 8, vous lisez, donc ça ne fait pas partie des chants du serviteur, mais c'est un peu avant. « Mais toi, Israël, le peuple d'Israël, tu es mon serviteur, Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. » De mon ami Abraham. Vous remarquerez que dans la Bible, le titre de serviteur de Dieu est donné pour la première fois à Abraham. On ne va pas le prendre, mais vous trouverez ça dans Genèse, chapitre 26, verset 24. Puis à plusieurs personnages dans l'Ancien Testament, dont Moïse, par exemple, des sacrificateurs, des prophètes. Et là, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, c'est une petite introduction avant d'arriver au cœur du sujet, que vous remarquerez que dans ce verset qu'on vient de lire, Abraham est appelé non seulement le serviteur de Dieu, comme on l'a dit dans le livre de la Genèse, mais là, il est appelé ami de Dieu. Et pour ceux que ça intéresse, vous trouverez cette mention de Abraham, ami de Dieu, aussi dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20 et au verset 27, de Chroniques, chapitre 20, verset 7, où on parle d'Abraham, mon ami. Et ce que je dirais, que je remarquerai, c'est que quand vous prenez dans le Nouveau Testament l'épître de Jacques, au chapitre 2, au verset 23, elle dit que Abraham a été appelé ami de Dieu et que ce verset 23 de l'épître de Jacques parle de Abraham, ami de Dieu, juste après avoir parlé de lui, comme au verset 20 et au verset 22, comme lui qui a été obéissant et qui a été dans la foi, et donc Abraham le serviteur. Et c'est intéressant de savoir que vous avez ce parallèle de Abraham, serviteur de Dieu, Abraham, ami de Dieu, aussi bien dans Jacques que dans Ésaïe. J'espère que je ne vous ai pas perdu pour l'introduction. Et Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce qui montre deux choses, c'est que notre privilège avec la venue de Jésus-Christ est d'être appelé ami de Dieu, alors que dans l'Ancien Testament, c'était que certaines personnes, mais qu'en même temps, ce n'est pas contradictoire avec Jean chapitre 15, verset 15, qui dit, où Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Nous sommes amis de Dieu, mais nous ne sommes pas amis de Dieu sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que Dieu, dans son immense bonté, nous appelle ses amis, c'est Jésus qui l'a dit, mais je ne peux pas trop dire que Dieu est mon ami. Je n'ai pas cette familiarité. Dieu reste quand même mon Seigneur, il reste Dieu. Ce n'est pas mon copain non plus. Et parfois, je suis un petit peu inquiet parce que certains pensent que bah, Dieu, c'est leur copain, mais pas tout à fait quand même, malgré le grand amour. Mais c'est vrai qu'on a découvert l'amour de Dieu. Maintenant, venons au cœur du sujet. En parlant de serviteur de Dieu, je voudrais dire tout de suite une chose qui semble évidente pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est officiellement serviteur de Dieu et les gens des rangs, les gens du peuple, si je puis me permettre. C'est la religion, les religions officielles qui ont nommé des représentants sacrés comme des prêtres et il y avait les laïcs. Et quand vous revenez aux sources, au Nouveau Testament, le Nouveau Testament parle ce qu'on appelle de sacerdoce universel, ça veut dire que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous avons tous la liberté de nous approcher de Dieu. Et il n'y a pas de frontière, j'aime bien le dire souvent, je suis désolé de radoter un petit peu, il n'y a pas de frontière entre le sacré et le profane. Il n'y a pas de différence entre ce que nous sommes à l'Église et ce que nous sommes dans la vie commune. Il n'y a pas de différence et nous sommes tous serviteurs de Dieu, que ce soit à l'église, dans un bâtiment, que ce soit le lundi matin au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec nos amis, que ce soit en allant à la pêche, à la ligne, que ce soit en faisant une randonnée, que ce soit en changeant la couche d'un bébé, je ne sais pas quoi inventer. Dans tous les aspects de notre vie, nous sommes serviteurs de Dieu. Vous le croyez ça? Nous sommes serviteurs de Dieu. C'est le Nouveau Testament qui le dit, nous sommes serviteurs de Dieu. Ça veut dire que toute notre vie doit être imprégnée de la présence de Dieu, qui fait que toute ma vie est un service pour Dieu. Quand je travaille consciencieusement, je fais un service pour Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. J'espère que quand vous péchez à la ligne consciencieusement. Alors, rassurez-vous, j'y connais rien à la pêche à la ligne. Premier point, un serviteur appelé par Dieu et formé par lui. Alors le premier champ, on va prendre que quelques extraits, bien sûr c'est impossible un dimanche matin de faire une étude complète là-dessus, on est obligé de faire des extraits, mais 42 verset 1 nous dit, donc ça c'est le premier champ, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Bien sûr, Ésaïe annonce Jésus. Il annonce le Messie. Et il dit que ce futur serviteur de Dieu, ce serviteur quand vous lisez Ésaïe, je fais une petite parenthèse, Il faut faire la différence, parce que parfois, Ésaïe parle de Israël, le peuple de Dieu, serviteur de Dieu. Et là, il dit, eh bien, le serviteur Israël, qui était à la base appelé à une vocation par Dieu, à servir Dieu dans les nations et, et à propager le nom de Dieu dans les nations, ce peuple a failli. Et c'est pour ça que vous trouvez des passages dans Ésaïe qui disent, eh bien, mon serviteur est sourd, il est aveugle, il n'entend rien. Et par contraste, Ésaïe annonce le vrai serviteur, le Messie qui vient, qui, lui, remplit pleinement la mission que Dieu lui a confiée. Et il dit là que ce Messie à venir, et voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, il est soutenu par Dieu. Celui que j'ai choisi, il est choisi par Dieu. Il est choisi par Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, Jean chapitre 8, verset 42, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Celui qui a toute mon approbation. Bien sûr, vous connaissez ces passages de Matthieu chapitre 3, verset 17 et de Matthieu chapitre 12, verset 18, où Dieu dit à propos de Jésus, « Voici celui en qui j'ai mis toute mon approbation, tout mon plaisir. » Et enfin, il dit, « J'ai mon esprit sur lui, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est Luc chapitre 4 qui nous le dit. Et nous, personnellement, nous sommes connus en tant que serviteurs, pour être des serviteurs appelés par Dieu, formés par lui. Nous sommes connus personnellement par Dieu, par notre nom. Celui que j'ai choisi, nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes tous serviteurs, comme je disais, nous ne sommes pas des spectateurs. On est d'accord ? Dans l'église de Jésus, dans les nouveaux-nés, dans ceux qui sont nés de nouveau, pas les nouveaux-nés, mais ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes tous participants, nous sommes tous acteurs et nous ne sommes pas spectateurs. Et bien sûr, c'est si Jésus avait la pleine approbation de son Père sur lui, à nous de marcher, si nous voulons servir Dieu, de marcher près de Dieu pour avoir toute son approbation. Et enfin, bien sûr, si nous voulons servir Dieu correctement dans notre vie, même dans les choses les plus profanes, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Si Jésus a eu besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option, c'est une nécessité dans notre vie chrétienne. Vous ne trouvez pas que le monde est assez difficile comme ça et que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit ? Un deuxième passage, c'est Ésaïe 49, verset 1, dit « écoutez-moi, peuple, alors 49, verset 1, « Ils, écoutez-moi, peuple lointain, c'est bien ça, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois, il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, par toi je montrerai ma splendeur. » C'est vrai que Jésus, dès que dans le ventre de sa mère, il était prédestiné, bien sûr, à être le Sauveur, et bien avant même. Il avait été nommé avant sa naissance. Tu l'appelleras Jésus, on l'appellera Jésus. D'ailleurs, petite parenthèse, Ça nous parle sur le statut de l'embryon, quand même. Sur le statut de l'embryon. Je vous rappelle quand même que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit à moins trois mois. C'est-à-dire que sa mère était enceinte de 6 mois. C'était écrit, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et quand sa mère a rencontré Marie, qui était enceinte de Jésus, c'est écrit que l'enfant tressaillit dans le ventre de sa mère et que la mère a été remplie du Saint-Esprit. Et il a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. C'est une petite parenthèse sur le statut de l'embryon. Ce serviteur Jésus, il a été donc nommé avant sa naissance. Pour moi, ça me parle parce que moi, je n'ai pas été nommé avant ma naissance. Mais par contre, ça me parle parce que je ne devais pas naître. Et je suis vraiment un miracle ambulant, je peux vous le dire. Et c'est écrit, il a rendu ma... Attendez, je suis paumé. Il a été caché. Caché. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Comme si, vous imaginez, ce serviteur, il est caché. Bien sûr que Jésus, il a été comme caché pendant 30 ans. Il a mené une vie obscure de petit ouvrier, de charpentier. Il était charpentier de métier. Et il était caché, il était mis à part. Et ne croyons pas que parce qu'il était fils de Dieu, il n'était pas fils de l'homme. Il était préparé par Dieu dans l'obscurité, dans la discrétion. Et ça, c'était un temps nécessaire pour lui. Enfin, il a été formé. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et il a fait de moi, il m'a rendu pareil à une épée tranchante. Et nous ? Nous aussi. Parfois, il arrive que dans ta vie, tu passes des moments où tu es caché par Dieu. Et ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps perdu quand Dieu te met à part et qu'il ne se passe rien et que Dieu fait son travail dans le silence, dans le calme, dans la discrétion. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous soyons formés comme une épée tranchante, comme une flèche aiguë. Dieu, le Seigneur veut former mon caractère. Dieu veut faire un travail dans ma vie. Dieu veut que je meure à ma vieille nature, que je puisse être vraiment changé, transformé par lui, afin que mon témoignage soit une source de délivrance et de bénédiction pour les autres. Amen. Vous êtes d'accord que c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, moi, je ne suis pas un adepte des sports de combat, mais je pense qu'à l'époque, c'était des épées. Je pense que le gars qui avait une épée, il préférait qu'elle coupe, parce que ce n'était pas pour faire du bien, il fallait couper. La flèche, pareil. On pourrait prendre des images modernes d'armement, mais ce n'est pas le but. Mais c'est sûr que le Seigneur veut que chacun d'entre nous, dans notre domaine particulier, nous soyons formés, nous le laissions transformer à l'intérieur afin que nous puissions avoir de l'impact dans quelque domaine que ce soit. Chapitre 50, verset 4, il y a un autre chant de l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. Il éveille chaque matin. Jésus se levait tôt tous les matins, pas tous les matins, je ne sais pas. En tout cas, il se levait. On a un passage, il dit qu'il se levait très tôt, même la nuit, pour prier. Il priait même la nuit, il passait des nuits en prière. Jésus lui-même a dit, Jean chapitre 12, versets 49 à 50, « Je n'ai pas parlé de moi-même. » Il y a plein de passages dans l'évangile de Jean où Jésus dit « Mais je ne parle pas de moi-même, je dis ce que le Père m'a dit. » Vous trouverez ça dans Jean chapitre 7, versets 16 et 34, dans Jean chapitre 8, versets 38, dans Jean chapitre 14, versets 10, dans Jean chapitre 17, versets 8 et dans Jean 12, 49 à 50, 49 à 50 où à chaque fois dit « Je ne parle pas de moi-même. » Vous imaginez, Jésus, le Fils de Dieu, en fait, avait besoin d'une communion parfaite avec son Père pour que quand il parlait aux hommes, il tirait tout ce qu'il apportait aux autres de la communion de son Père. Et c'est son Père qui lui avait donné à chaque fois le plan de ce qu'il allait dire et faire. Je ne sais pas si on peut imaginer. Rappelez-vous que Jésus était pleinement homme sur la terre. Il était comme nous. Et nous ? Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que chacun d'entre nous, moi le premier, nous avons besoin d'apprendre à écouter Dieu. Et on peut dire amen, mais ce n'est pas toujours facile. Apprendre à discerner la voix de Dieu, apprendre à écouter ce qu'il veut me dire, ce qu'il veut pour moi, c'est pas si simple que ça. Il y a tellement de voix différentes. Parfois, on veut une parole de Dieu. Ça, c'est le défaut des pentecôtistes. On a nos qualités, j'en fais partie, on a nos défauts. Frères et sœurs, la direction de Dieu, ce n'est pas un machin magique. Ce n'est pas comme à l'époque des Grecs où ils allaient voir l'oracle qui leur parlait. Ce n'est pas comme ça. La direction de Dieu dans la vie chrétienne, la plupart du temps, c'est une façon beaucoup plus profonde qui se passe. Parfois, Dieu peut te dire vraiment des choses d'une façon particulière, par un don spirituel, une révélation. Mais ce n'est pas souvent, et ce n'est pas normal que ça soit souvent. La plupart du temps, c'est une étude systématique de la Bible, une communion avec le Seigneur, et à un moment, quelque chose qui se passe dans votre cœur qui vous dit la paix de Dieu qui est là et qui vous dit c'est ça que tu dois faire. Et quand tu dois prendre une direction, il faut déjà que les principes bibliques soient impliqués en toi, qui sont imprégnés en toi, que tu sois imprégné par ça, qui fait que tu as des principes qui font qu'à un moment, je ne vais pas prendre d'exemple, à un moment, tu n'as pas besoin de chercher la direction de Dieu parce que tu sais ce que la Bible dit sur ce sujet. C'est tout. Je vais être vrai avec vous. Je pense que parfois, nous faisons perdre du temps. Ça m'est arrivé. Donc, rassurez-vous, je ne juge personne, ça m'est arrivé. On a tous nos étapes de croissance. Quand j'étais jeune converti, je voulais que Dieu me parle tout le temps. Comme j'avais le privilège d'être dans une église de Pentecôte très vivante, il y avait beaucoup de dons spirituels, ils étaient très authentiques. Et il y avait des choses vraies qui se passaient. Dieu dévoilait les cœurs et les vies. Mais à un moment, le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, mais oh, hey, c'est bon quoi. En gros, arrête de me faire perdre mon temps. Seigneur, est-ce que c'est bien de mentir ? Hey, lis ta Bible. Seigneur, est-ce que c'est bien la fraude fiscale ? C'est bien. Seigneur, est-ce que je dois me venger de mon ennemi ? Est-ce que je dois pardonner ? J'ai besoin d'un don spirituel pour pardonner quelqu'un ? Je me moque de personne, je me moque de moi. Donc, soyons grands, matures, et apprenons à discerner la voix de Dieu. Par contre, il y a parfois des décisions complexes, difficiles. Là, il ne faut pas tomber dans les pièges, c'est compliqué. Il faut vraiment s'attendre au Seigneur. Parfois, vous avez des circonstances qui sont favorables et vous n'êtes pas dans le coup. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Parfois, c'est le contraire, c'est compliqué. Il faut vraiment se tenir près de Dieu. Et je pense que plus on va aller vers les temps difficiles, et plus il faudra être sensible au Saint-Esprit. Le serviteur témoin, chapitre 42, verset 6. Je ne sais pas comment je vais faire pour tenir dans les délais. Je rappelle qu'on a commencé tard, donc l'horloge. Ne dites pas, il a prêché longtemps. J'ai remarqué, on a commencé au moins, il était 11h15, facile. J'ai une pendule. Alors, je veux faire vite, mais je ne peux pas faire un quart d'heure non plus. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. 42, 6. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. Amen. Je fais court. Jésus a fait tout ça. Jésus a porté la lumière. Jésus a porté la délivrance. Jésus lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour que, etc., etc. Vous connaissez tous ces passages. Jésus a fait tout cela, il était la lumière, la délivrance spirituelle et physique. On ne va pas s'attarder. Et moi, je peux me l'appliquer. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même s'est appliqué ces versets. L'apôtre Paul a dit lui-même, en parlant, il a dit, mais Dieu a dit, oh là 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 là. Bon, vous retrouverez ça dans Actes, chapitre 13, verset 47. Et donc, si Jésus-Christ m'a délivré des ténèbres et éclairé, parce que vous êtes d'accord que pour apporter la lumière aux autres, il faut déjà être soi-même dans la lumière. Hein ? D'accord ? Alors, déjà, j'ai envie de commencer une petite chose. À combien plus forte raison peut-il faire que moi, quand je suis, comme je disais tout à l'heure, dans le brouillard, dans le noir, je puisse être dans sa lumière pour savoir prendre des bonnes décisions ? Amen ? Si déjà je suis appelé à apporter la lumière aux autres, qu'au moins je l'apporte à moi-même. Et d'un. Et enfin, pour parler de délivrance, puisqu'il parle de délivrance, on est d'accord que pour apporter la délivrance aux autres, nous devons être délivrés nous-mêmes. Et on est d'accord que si tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es délivré. Oui ou non ? Donc tu n'as pas besoin d'être délivré de nouveau. On est d'accord ? Oui. Je dis ça parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a des églises quelque part en France, enfin, moi je ne connais pas tous ces trucs-là, où il y a des espèces de doctrines, où les chrétiens, il y a des bouquins. Je pense que les gens ils devraient faire des économies, arrêter de lire certains livres et lire la Bible. C'est pas cher la Bible. Et où il y a des bouquins qui leur disent, chrétien, il faut que tu te délivres toi-même. Et alors je ne sais pas, il y a des techniques pour se délivrer. Enfin, je ne sais pas. Si vous avez des trucs comme ça, mais mettez-les à la poubelle. et croyez ce que Jésus a dit. Si le Fils vous affranchit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et j'ai bien peur que parfois, le chrétien cherche la délivrance là où il a juste besoin de repentance du péché. Bien sûr que si je reviens à mon ancien péché, je ne suis pas libre. Et dans ce cas-là, je n'ai peut-être pas besoin de délivrance, j'ai juste besoin de repentance, de demander pardon à Dieu et de revenir dans la lumière. Et alors, sachant que je suis éclairé et délivré, je peux apporter cette lumière aux autres, je peux leur apporter cette délivrance. Et 42, verset 2, nous dit « Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, j'espère que ce n'est pas mon cas, et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. » C'est beau ça, hein ? Vous savez que ça a été appliqué à Jésus, vous le savez. Hein ? Déjà, tout ce passage, il ne criera pas, il ne haussera pas la voix, il ne cassera pas le roseau abîmé, tout ça, ça a été appliqué à Jésus dans Matthieu chapitre 12, versets 15 à 21. Et c'est pas évident à comprendre ce passage. Alors, du coup, j'ai repris un petit commentaire de quelqu'un que j'aime bien. C'est en anglais, hein, mais je vais le traduire en français. Et je trouve que c'était bien ce qu'il disait à propos de Jésus qui lève pas sa voix dans les rues. Il dit, à propos de Jésus, bien que certains de son appel divin, son comportement est néanmoins tranquille, aimable et humble, l'opposé même des enseignants qui cherchent à se mettre en avant bruyamment. Ses œuvres se recommandent d'elles-mêmes et ne nécessitent pas une publicité bruyante. Vous ne trouvez pas que c'est beau ? C'est bien, c'est bien expliqué. Je pense que Jésus, de lui-même, il n'avait pas besoin de hurler pour dire « Ah ben, je suis là, je suis venu vous délivrer », parce que quand il arrive, ben, il se passait toujours quelque chose. La puissance du Seigneur était là pour guérir. Il n'a pas besoin de mettre des prospectus. Je ne sais pas si certains ont regardé la série Chosen sur Netflix. Moi, j'ai regardé ça parce que j'ai bien aimé, même si c'est loin de la vérité. Mais c'est quand même très, très intéressant. Et bon, j'ai regardé les deux saisons parce que ça m'intéressait. Bref, je ne fais pas la pub, ce n'est pas ça. Mais il y a des trucs complètement hors contexte. Et à un moment, ça se termine sur le Sermon sur la montagne, la série 2. Elle se termine et on dirait que Jésus, quand il fait le Sermon sur la montagne, on dirait que c'est une campagne de pub genre, avec des prospectus. Mais il n'y a pas besoin de prospectus. Pas besoin de prospectus. Quand il y avait des démons, des démoniaques guéris, des aveugles guéris, des sourds qui entendaient. Comment vous voulez ? Bouche à l'eau. Quand il y a des guérisons comme ça, tout le monde vient. Et Jésus ne brisait pas les roseaux abîmés. Il n'éteignait pas la mèche qui brûle, qui fume encore. Quel amour, quelle compassion. Jésus n'est pas venu avec des paroles de jugement. Il n'est pas venu pour casser les gens. Il n'est pas venu pour les juger. Mais avec son regard d'amour, il les a relevés. Il est arrivé dans un pays déjà, le pays d'Israël qui était brisé, qui était sous une oppression. Et Jésus est venu avec son amour. Et quand il rencontrait des gens qui étaient comme ces roseaux froissés, il est relevé. Et frères et sœurs, nous-mêmes, nous avons besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'amour de Jésus. J'ai besoin de la compassion de Jésus. Il y a tellement de gens qui sont brisés autour de nous. Tellement de blessures. Vous croyez que quelqu'un, quand il a souffert dans la vie, qu'il a souffert de toutes sortes de choses, d'une vie conjugale difficile, de divorce, de je sais pas quoi, de maltraitance, de harcèlement sexuel ou autre, vous croyez qu'il a besoin d'être jugé, est-ce qu'il a besoin d'une leçon de morale ? Non. Dieu peut convaincre de péché, mais avant tout, il a besoin de notre compassion, il a besoin de notre amour, et il a besoin que nous ayons avec notre regard, avec cette puissance de restauration, et Jésus est celui qui, donc c'était le troisième point que je n'ai pas nommé, c'était un serviteur rempli d'amour et de patience. Le Seigneur a été rempli d'amour et de patience avec moi. On est d'accord ? Il a été très patient avec moi, il est toujours. Et nous avons besoin d'être patients et remplis d'amour avec ceux qui nous entourent. C'est par notre amour que nous pouvons transmettre cette grâce. Moi, personnellement, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais dans le marasme le plus complet, j'étais dépressif. Quand Jésus est venu à moi, il ne m'a pas dit « faut que tu te repentes de tes péchés ». En fait, pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Il m'a fait voir son amour, et il m'a fait voir l'espoir, et il m'a sorti de ma dépression nerveuse. Dans mon expérience, c'est chacun son expérience. Mon expérience a été une expérience de relèvement, mais je dois vous dire la vérité. Peut-être quelques mois ou quelques années, 2-3 ans, enfin, j'étais jeune converti, mais je suis passé par une terrible conviction de péché. C'est-à-dire que quand Dieu m'a reconstruit, guéri, il a dit, mais maintenant, Patrick, il faut que je fasse un travail en toi parce que tu n'as pas tout à fait compris par rapport au péché, par rapport à la repentance, par rapport à la sainteté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, Dieu il est obligé de faire ça plusieurs fois chez nous. J'avais trouvé Dieu comme ma bouée de sauvetage, mais j'étais rempli d'orgueil. Je ne le savais pas, je ne m'en rendais même pas compte. J'étais moi-même, je ne pouvais même pas imaginer comment j'étais. Et il a fallu qu'à un moment, le Seigneur me dise, mais non, tu sais, tu es chrétien, mais en fait, tu es plein de péchés. Et en fait, c'est comme, tu sais, une maison. Tu sais, les fondations. Vous savez qu'il y a des endroits ici où il y a des maisons, elles sont sur l'argile, et il y a des fissures à cause de la sécheresse, tout ça, il y a des fissures. Et il y a des travaux parfois qui se font, on recreuse les fondations. Il y a des maisons qui ont été bien fondées, d'autres non. Et il y en a, on est obligé de faire des piliers très profonds pour reconstruire la fondation. Et parfois, dans notre vie, c'est comme ça. Il faut que le Seigneur refasse une fondation parce qu'elle a été mal faite, parce qu'on a découvert Jésus comme notre sauveur, comme celui qui nous sortait du problème, mais on n'a jamais réalisé que vraiment le péché c'était très 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 grave et qu'il fallait vraiment une séparation entre le péché et nous et voilà tout ça. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire dans notre cœur. Si quelqu'un m'avait dit ça à moi, j'aurais jamais accepté. Il fallait que ce soit le Seigneur qui me le montre. Et dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, dans le même thème, le chant du serviteur, Dieu dit, il m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Bien sûr, le Seigneur Jésus a fait ça. Mais dans mon cœur, si je veux être capable d'aider quelqu'un qui est dans les problèmes, dans l'Église par exemple, ça ne peut pas être par ma sympathie simplement humaine, mais il faut que le Seigneur fasse son travail en moi pour que j'ai la bonne parole, la bonne réaction, la bonne façon de parler, pour que je puisse vraiment soutenir, pas juste par des mots, mais par quelque chose qui vient de Dieu, celui qui est abattu. On a besoin, le matin, on prie, et peut-être que le Seigneur, toi, frère, sœur, il t'a donné une mission. Et tu es en train de prier, peut-être le Seigneur il va t'envoyer ou te donner, de passer un coup de fil à quelqu'un qui va le relever. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et ce qui est rigolo et étrange, vous ne pouvez pas savoir combien de fois le Seigneur se moque de ce qui est en vue. Il se moque de ce qui est spectaculaire et il aime souvent nous surprendre par ce qui est surprenant. Et souvent, Dieu va vous parler, va se servir de quelqu'un, vous n'y attendez pas du tout. Pas du tout. Une personne à qui vous n'avez même pas prêté attention et puis Dieu va se servir d'elle pour venir à votre secours. Comme ça. Eh oui, on arrive à la fin. Alléluia. Jésus a tenu bon face à toutes les oppositions. Je ne sais plus où c'est marqué dans le chant de l'Éternel, je l'ai oublié. Mais en tout cas, c'est écrit, oui, c'est ça, juste après. Enfin, c'est juste après. Verset 5, 55. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, etc. Je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Chapitre 50, verset 6 et verset 7. Vois cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. C'est Jésus. Dieu est venu à l'aide de Jésus. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste et proche, qui veut m'accuser. Vous remarquerez que ce passage qu'on est en train de lire est dans Romains 8 hein, aussi. Hein. Qui veut m'accuser ? Ça veut dire que ce passage a été appliqué au Messie avant qu'il soit appliqué à nous. Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit ? Qui s'avance vers moi ? C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Ils tomberont comme un lambeau, comme un habit dévoré par la teigne, etc. Voilà. Et Jésus a tenu bon face à l'opposition et il ne s'est jamais découragé. Mais nous, on n'est pas Jésus. Parfois, on baisse les bras. Nous ne sommes que des hommes. L'image s'arrête là. Parfois, je me décourage. Parfois, je baisse les bras. Mais l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 3, dit que en regardant à Jésus, alors nous reprenons courage. Jésus est mon exemple. Et Jésus est celui qui me donne de garder courage. Et je termine dans le service pour Dieu. Le serviteur souffrant, chapitre 50, on vient de lire, je viens de le lire. Le serviteur souffrant, Jésus, ça parle de toutes ces souffrances de Jésus. Bien sûr, vous savez qu'après le dernier chant, c'est Ésaïe 53 et 52 avant. Et Jésus a souffert dans son service. Et je crois que c'est impossible de servir Dieu. C'est impossible d'être efficace pour Dieu. C'est impossible de remplir, et on va terminer là-dessus. C'est impossible de remplir le plan de Dieu, la mission de Dieu, sans les souffrances qui vont avec. Mais gloire à Dieu, il y en a un qui a souffert pour moi, avant moi. Il a dit, c'est vrai que le serviteur n'est pas plus que son maître et que nous sommes appelés à prendre notre croix. Mais gloire à Dieu, si lui, il a souffert pour moi, si lui, il a tenu bon face à l'opposition, face au mépris, il a quand même tout supporté. Les injures, les calomnies, la trahison, le reniement, et surtout l'abandon de son Père, couvert par nos péchés. Alors à combien plus forte raison, moi je peux accepter si je veux vraiment servir Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et je pense que sincèrement, frères et sœurs, si nous voulons vraiment remplir le plan de Dieu dans notre vie, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre place, quel que soit notre rôle, forcément, il y aura de la souffrance. Mais gloire à Dieu, cette souffrance, elle est avec la grâce de Dieu. Et celui qui nous justifie est là. Et qui m'accusera, qui me condamnera, comme dit l'apôtre Paul en citant ce chapitre d'Ésaïe. Alors, c'est vrai, Jésus... Je regrette presque de ne pas vous le lire, mais ça fait un peu... Mais on va le lire quand même, juste, mais sans prêcher, juste chapitre 53, un extrait du cinquième évangile. Vous connaissez le cinquième évangile, hein ? Désolé de vous perdre avec les cinquième évangile, Ésaïe 53, qui est le quatrième chant du serviteur. Et voici, à propos de Jésus, méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons chacun, pour notre part, être serviteurs à ton exemple. Tu es notre exemple, nous sommes bien petits, et nous voulons remplir notre mission jusqu'à la fin, quelle que soit cette mission que tu nous as donnée. Donne-nous, Seigneur, que tu sois fier de nous, que tu sois honoré par nos vies, que tu es notre maître. Tu nous as appelés tes amis, mais tu as aussi dit que tu étais notre maître. Alors Seigneur, par amour tu nous as gagnés, et par amour nous voulons te servir. Nous ne sommes pas des serviteurs par contrainte, mais nous sommes des serviteurs par l'amour. Alors Seigneur, donne-nous d'être de bons serviteurs. Amen.
Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.